Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et allez, bonjour à toutes et à tous. On est heureux et joyeux de vous retrouver dans ce Comme un lundi du 22 avril en direct à midi et en rediffusion à 18h. Pour m'accompagner lors de cette émission à la technique et à l'animation, salut Arnaud.
Plaloubun Sun Pao et bonjour à tous nos auditeurs d'ici et d'ailleurs.
Et au sommaire de ce Comme un lundi,
nous écouterons en fin d'émission de la musique avec Solak Balik qui sera en concert le 4 mai sous le chapiteau du festival Atom Crousier à La Crousier.
L'actualité culturelle en Occitanie nous emmènera du côté de Toulouse pour découvrir le Nid des Éléphantos, un chapiteau de cirque installé à La Trappe en Haute-Garonne.
Jérôme Auguste nous expliquera la notion des canus de la terre pour cette rubrique de désenfumage.
Le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 mai, c'est la 4e édition du festival Atom Crousier. Léna, fondatrice de l'association Debout les yeux, nous présente la programmation de ce beau festival.
De la musique encore avec une nouveauté musicale, Soviet Supreme qui revient sur les ondes avec le titre Qui complote, extrait de leur prochain album qui sortira à l'automne 2024.
Will nous proposera un reportage sur un atelier de gestion de conflits, une rencontre avec l'association Cop Héron à Gaillac.
Et nous commençons tout de suite dans nos studios avec Roland Foissac de l'association Jaurès Espace Tarn pour nous parler de droit à l'information, libérer la presse des puissances de l'argent.
Allez, comme un lundi,
c'est parti. Ce samedi 27 avril, à partir de 14h30 à Carmaux, l'AJET, l'association Jaurès Espace Tarn, en partenariat avec Clap Action, organise une table ronde et une projection débat autour de la thématique du droit à l'information. Une rencontre à partir de 14h30 avec Camille Polony, journaliste à Mediapart, et Fabien Gay, directeur de l'Humanité. Une table ronde au local de la CGT de Carmaux, à la salle Jean Jaurès, avec des journalistes de la presse locale et des radio, des acteurs engagés pour le droit à l'information. Cette rencontre sera suivie d'un ciné-débat à partir de 18h30 en partenariat avec Clap Action, avec la projection du film Media Crash. Roland Foissac, bien le bonjour, Bounsoun.
Bounsoun à vous.
Laurent Foissac, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'AJET ?
L'AJET a été créée en 1996 pour pallier à un besoin vraiment d'information et de débat sur les grandes questions qui sont en lien, selon nous, avec la pensée et l'action de Jean Jaurès, porte sur toutes les questions qu'il soulevait à l'époque, qui sont devenues aujourd'hui des sujets majeurs. Et nous essayons tous les mois, pratiquement, d'organiser des conférences nombreuses que vous retrouvez sur le site ajet.fr. Et ces conférences, déjà, cette année 2024, commencent sur les chapeaux de roue, avec notamment des sujets tels que la crise climatique, comme l'indépendance de la presse, donc qui va se dérouler ce samedi, mais aussi la lutte de Jaurès contre les guerres et pour la paix, le conflit israélo-palestinien, ce sont déjà des conférences qui ont eu lieu, l'intelligence artificielle, et nous avons jugé indispensable cette année de programmer aussi cette grande question concernant la liberté de la presse et le droit à l'information, puisque nous sommes aussi, nous ne l'oublions pas, au 80e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance et du 120e anniversaire du journal créé par Jean Jaurès.
D'où l'importance de réaliser à Carmaux justement ce débat, cette rencontre le 27 avril.
Absolument. Le programme du Conseil national de la résistance comportait cette grande ambition de libérer la presse des puissances de l'argent. C'est textuellement la proposition que formulait le CNR. Et Jaurès a été adoubé par les mineurs en décembre 1892 dans cette même salle qui ne s'appelait pas Jean Jaurès à l'époque pour devenir le candidat des mineurs et des verriers pour l'élection législative de 1893 qu'il a remporté. Et donc tout cela nous a conduit à dire bon, ben, écoutez, il faut faire quelque chose d'important qui est l'allure d'un débat. Nous avons invité le directeur de l'Humanité qui nous fait l'honneur d'être présent. Nous avons invité Mediapart qui sera représenté par Camille Polony nous avons invité bien sûr les journaux dans leur ensemble, sans discrimination, les journaux locaux, les journaux alternatifs, les médias indépendants et également le syndicat national des journalistes qui sera représenté par Alexandre Buzyne, son secrétaire général, pour participer à cette grande après-midi de rencontres jaurésiennes.
Alors, on va citer Julia Cagé, qui est économiste et qui est sortie de Sciences Po, qui dit « 9 milliardaires possèdent plus de 80% des médias privés en France ». Vous avez choisi d'inviter un représentant de Mediapart et de l'Humanité. Vous pensez que ce sont des médias libres et indépendants ?
Ben oui, l'Humanité, donc, tout au long de ses 120 ans, a dû affronter bien des orages, bien des tempêtes, a su rester ce que Jaurès en avait fait, c'est-à-dire un média clairement engagé, avec porteur d'une pensée et de propositions communistes, mais aussi très ouvert, toujours ouvert, sur l'ensemble des forces de transformation sociale. Et Mediapart, je pense, fait la preuve justement de sa fidélité à ses origines, même si son fondateur, son directeur Edwy Plenel, a passé la main récemment à une nouvelle équipe. Comme la JET d'ailleurs, qui a tenu son assemblée générale le 16 mars et s'est dotée d'une coprésidence avec trois nouvelles présidentes, un nouveau staff, si on peut parler en termes rugbystiques, qui se met au travail pour animer cette association.
On va citer d'ailleurs le slogan de Mediapart, « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Ce n'est pas le cas pour les 80% de la presse privée en France, malheureusement.
Mais oui, évidemment. Donc la question de l'argent, disait Jaurès, est une question très difficile, mais pas impossible. Et régulièrement, l'Humanité fait appel à ses lectrices et à ses lecteurs pour l'aider à surmonter les énormes difficultés, le défi financier qui se pose à toute presse indépendante, puisque maintenant, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une emprise de plus en plus envahissante des milliardaires. On a notamment vu ce qu'a donné la prise du JDD au mois de juin par Geoffroy Lejeune, qui était le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, et on voit maintenant dans l'actualité Marianne qui est sous le feu de la prise par les milliardaires. Bolloré est sur les rangs, pour reprendre Marianne. Bolloré qui regroupe à lui seul les groupes de l'audiovisuel tels que Canal+, Europe 1, La Presse, Télé Loisirs, Paris Match, le JDD, les éditions maintenant avec Éditions et la communication avec Havas. Donc, c'est vraiment maintenant, au-delà de tout ce que pouvait imaginer le Conseil national de la Résistance, un envahissement général avec, bien sûr, ce qui est derrière, c'est-à-dire toutes les idées d'extrême droite qui prolifèrent dans cet envahissement médiatique et éditorial. Voilà. Donc, c'est très grave, selon nous, c'est très grave pour la démocratie, c'est un enjeu de société majeur que nous voulons aider à combattre et au travers de cette initiative de samedi 27 avril à Carmaux.
Et pour combattre et lutter, vous invitez d'ailleurs aussi le public à une projection d'un film documentaire « Média Crash » qui a tué le débat public de Valentine Auberti et de Luc Herman. Vous le proposez en collaboration avec l'association Clap Action de Clap Ciné de Carmo. On s'écoute la bande-annonce et on revient dans quelques instants en rediscuter un petit peu avec vous. Donc la bande-annonce de « Média Crash » qui a tué le débat public.
Maintenant, on va vous montrer un document.
Enfin, c'est insupportable! Je veux pas que vous répondiez!
C'est plus une émission de débat!
Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez!
Journaliste du service public, observateur de gauche, élu de gauche, ne vous réjouissez pas.
Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence. Et à des gens qui ont peur.
Le vrai patron, c'est Bolloré.
Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée.
En l'espace de, allez, on va dire, 5 mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré.
J'ai trouvé la boîte qui a infiltré l'organisation, et on va faire un service personnalisé.
Bernard Arnault n'est pas habitué à avoir de la confrontation. Déjà, la police s'était faite acheter pour moi par Bernard Arnault, et maintenant, c'est la justice.
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger.
Il faudrait vraiment avoir très peu de caractère pour changer d'avis sur un coup de fil, c'est ridicule.
Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont.
Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré.
Je crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non ?
On va vous expliquer un peu ce qui se passe, là, en fait.
Merci.
Allez, c'était un extrait du film documentaire « Média Crash » qui a tué le débat public, réalisé par Mediapart et Première Ligne, il me semble, dans les coulisses des grands médias. Ce choix par rapport à la sensibilisation au projet et au débat que vous voulez ouvrir le samedi 27 avril, je crois que c'est un choix logique.
Ben, tout à fait. Il y a beaucoup de films, beaucoup de choses qui paraissent aujourd'hui sur cet enjeu. Mais ce film-là nous a paru le plus pertinent, parmi les plus pertinents en tout cas, pour terminer la soirée avec, bien sûr, à la suite de la projection, un échange, un débat. La projection était programmée à 18h30, donc elle fera suite à notre rencontre de l'après-midi.
Et du coup, une projection qui est assurée par l'association Clap Action. Pour animer le débat juste après la projection du film de Média Crash, est-ce qu'on retrouvera Camille Polony et
oui.
Fabien Gay aussi
Non, Fabien Gay. Fabien Gay sera parti, lui, parce qu'il a des obligations qui l'obligent à rejoindre Paris. Mais Camille Polony sera là, effectivement, et donc elle pourra animer le débat.
Grand merci, Père Toutacot, Roland Foissac, donc de la JET.
Merci à vous.
On rappelle donc cette rencontre jaurétienne autour de la thématique « Libérer la presse des puissances de l'argent » ce samedi 27 à partir de 14h30 à Carmo, avec une table ronde rencontre en compagnie de Camille Polony de Mediapart, Fabien Gay de l'Humanité, mais aussi les médias locaux. Toute la programmation de la JET est à retrouver en passant par son site internet. Puis nous, on va en profiter pour informer nos auditeurs qu'on peut trouver la presse papier pas pareil dans les locaux de Radio Albigès, comme Saxifrage, L'Empaillé, L'Âge de Fer ou bien d'autres, voilà, à venir bouquiner ou bien acheter dans les locaux de Radio Albigès. Merci Roland Foissac et Al Plaisir sur sa zone d'os.
Al Plaisir.
Allez, si on sujet, on changeait de sujet, quoique en même temps, c'est une parle de gestion de conflits. Cette année 2024, l'association Coop Héron fêtera ses 10 ans d'existence autour de la culture, de la coopération, de la non-violence et de la gestion positive de conflits. Nous avons laissé traîner notre micro lors d'un atelier de gestion des conflits à Gaillac, histoire de rencontrer quelques-unes des démarches et pratiques de cette association.
Vu qu'on a besoin de mouvement un peu, on peut chacun de votre tour de venir écrire du coup les besoins que vous avez pour vous sentir bien dans l'atelier. Et voilà, qui veut commencer ? Est-ce que tu veux nous en dire plus ?
Benjamin Estampe, je me définirais comme animateur spécialisé sur les compétences relationnelles, un petit peu formateur aussi pour adultes et médiateur. Alors l'association Coop Héron, elle est née en 2014, voilà, c'est moi qui ai impulsé ça. J'arrivais du centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées où j'ai fait un volontariat en service civique. Voilà, j'étais déjà membre du MAN à Albi, là, le mouvement pour une alternative non violente. Et l'envie, l'objectif pour moi, c'était de créer une antenne du centre de ressources sur la non violence de Midi-Pyrénées pour rendre accessibles les ressources, les formations, les ateliers autour de la coopération et de la non violence. Donc voilà, ça fait bientôt 10 ans, enfin cette année, ça va être en 2024 nos 10 ans. Donc voilà, sur le territoire, on a quelques ressources, des livres, des outils pédagogiques, soit pour les parents, pour les professionnels, pour les collectifs, des boîtes de jeux coopératifs, et on anime des formations et des ateliers voilà, pour être en direct avec les gens aussi.
Alors j'ai besoin d'ancrage parce que j'ai besoin que cet atelier s'appuie sur ma réalité, pour pouvoir ensuite m'en resservir au quotidien. Et puis j'aime bien ce mot, il m'a parlé tout de suite quand je l'ai vu. Ça ne va pas forcément expliquer pourquoi. Et besoin de sécurité parce que je pense que le thème qu'on va traiter aujourd'hui et la prochaine fois nécessite qu'on se sente dans un cercle de sécurité entre nous. Voilà, qu'on fasse attention les uns aux autres.
Merci. Donc 10 ans de coopérant, 20 ans du centre de ressources de Colomiers, c'est ça ?
Ouais.
Est-ce que tu peux aussi situer peut-être au-delà des 20 ans, c'est quoi un peu l'histoire de tout ce mouvement ?
Alors de tout le moment, je sais, enfin ça va être long, enfin je connais pas tout, mais le centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées, il est né au moment de la guerre en Irak. Du coup, bah, c'est 2004, et il y avait une grosse mobilisation avec Jean-Marie Muller, Alain Refallo, je crois. Après, je connais pas les autres personnes qui étaient là, mais en tout cas les gens connus, c'était ça, qui ont organisé pas mal de manifestations contre la guerre. Et à la suite de ça est venue l'envie, la motivation, l'élan de créer un centre de ressources, voilà, autour de la non-violence. Plus généralement. Et nous, à Coop Héron, on s'était fixé l'objectif de pas aller sur le terrain politique, comme pouvait le faire l'action non violente, parce qu'on voulait pas se fermer les portes des établissements scolaires et tout ça, donc on voulait être vraiment sur les outils à destination des différents publics. Et voilà, on se positionnait pas sur des questions de guerre ou des questions d'armement ou de désobéissance, comme pouvait le faire le centre de ressources. Voilà, on avait fait une stratégie différente au niveau local.
Donc tu parles d'outils. Ça veut dire que, parce qu'on parle de non-violence, on pourrait penser que c'est une posture morale. C'est bien des méthodes, en fait, des stratégies, plutôt. Comment tu les définirais ?
Alors, moi, ce que je développe et ce qu'on développe avec Coop Héron, c'est des postures. C'est vrai que la non-violence, peut-être, ça fait plus... Enfin, il y a les deux. Peut-être ça fait plus appel à un imaginaire de résistance non-violente. Et en même temps, la communication violente ou les outils, les postures... de coopération, c'est entre humains. En tout cas, moi, ce qui me motive, c'est ça, c'est comment on peut faire pour que ça se passe mieux entre nous, comment on peut être sur des postures d'égalité et de faire ensemble. Voilà, moi, ce qui m'a motivé à aller dans tout ça, c'était aussi de dire, j'ai envie que les enfants, ils s'émancipent. Donc, je me suis intéressé aux pédagogies alternatives, pédagogie freinée, pédagogie institutionnelle. Voilà, qui a mis en place les conseils d'enfants, enfin voilà, une démocratie déjà dans les écoles, donc c'est ça qui m'a mis dedans. J'étais pas encore parrain à l'époque, mais voilà, en tout cas, j'étais sensibilisé à ça en tant qu'animateur.
Non, mais enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est difficile de choisir.
Ouais. Ok. Bon, donc on va commencer. Donc on va s'appuyer là-dessus. S'il y a des moments, il y a besoin de, bah, de rajouter des choses, ou la fois prochaine de le retravailler, on retravaillera. Donc au centre de notre cercle, il y a des cartes, des paysages. Je vous propose de choisir une carte qui représente bah, qu'est-ce que c'est pour vous le conflit.
Et on la prend ou on la
ouais, prend? Là, vous pouvez la prendre. Vous pouvez la prendre.
Je suis Amandine et j'ai participé aux ateliers gestion des conflits à Gaillac, à l'association Coopérons.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Alors, j'ai souhaité participer parce que ça fait longtemps que je suis sensible à la communication non violente, à la bienveillance, à la façon de gérer les relations avec les autres. Et quand j'ai vu passer cet atelier qui correspondait déjà en termes d'organisation pour moi, c'était en soirée, j'ai eu envie de faire une piqûre de rappel en fait et de poursuivre sur ce chemin de recherche personnelle dans la communication avec mon entourage et puis sur mon lieu professionnel aussi. En fait, il y avait trois ateliers. Le premier atelier, c'était pour découvrir notre façon de gérer les conflits. Si on était plutôt dans une posture de fuite, de compromis, de compétition, etc. Et d'essayer de voir comment on pouvait changer notre posture face aux personnes avec qui on est en conflit pour parvenir à plus de coopération, voilà, de compréhension, voilà, et savoir essayer de sonder au fond de soi, en fonction du conflit bien entendu, comment on pouvait se rapprocher de la coopération justement avec l'autre. Ça, c'était le premier atelier. Ensuite, il y a eu un deuxième atelier qui était plus pour aller voir en soi, en fait, comment on pouvait exprimer ses besoins, comment on pouvait parler de soi, en fait, dans le conflit, au sein du conflit, et arriver à dire et à partager, même si c'était pas toujours, c'est pas toujours très agréable quand on est en conflit, justement, de partager et de trouver des solutions pour pouvoir aller vers l'autre malgré tout et parler de soi sans être dans la confrontation directe. Et après, il y avait un dernier atelier qui était pour... que j'ai fait deux fois, d'ailleurs, l'atelier 3, parce que je trouve que c'est bien de d'y revenir, puisqu'il s'agissait d'essayer de gérer des conflits, en fait, de trouver des solutions à des vrais conflits qu'on a dans notre quotidien. Voilà, et le fait, justement, d'être en groupe, ça a été très, très bénéfique, je trouve, parce que... en groupe, on prend de la distance par rapport aux problématiques que peuvent avoir les autres, aux gestions de conflits que peuvent avoir les autres. Et en prenant cette distance, on se regarde soi finalement. En regardant l'autre, on se regarde soi. On chemine, on trouve ses propres solutions aussi en écoutant les autres. La force du groupe est très positive. Voilà, ça apporte beaucoup de choses d'être en groupe et d'écouter les autres, de s'exprimer, d'arriver à s'exprimer aussi, d'arriver à poser des choses... dans un groupe qui est bienveillant, puisque ce sont les intentions de départ, cette écoute, cette bienveillance, c'est le fait que tout reste à l'intérieur du groupe, quoi, de cette séance-là. Donc on peut déposer ce qu'on a à déposer en toute quiétude, en fait. Et j'ai trouvé ça très, très bénéfique et très entourant, voilà, très, très positif.
Merci à Benjamin et à Amandine pour leur témoignage. C'est un extrait de reportage lors d'un atelier gestion des conflits avec l'association gaillacoise Coopérons. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'intégralité de ce reportage demain mardi à 16h dans votre créneau micro ouvert sur nos ondes ou d'ores et déjà en podcast via notre site internet au www.radioalbiges.com.
Comment ça va? Comme un lundi, je sais pas ce que j'ai.
peux pas travailler.
Allez, ici ça va très bien, j'espère que vous aussi de l'autre côté du poste ça va bien. Place à la musique maintenant et en écho à l'événement proposé par l'AGET autour du droit à l'information, nous vous proposons d'écouter Qui complote. C'est un titre extrait du prochain album de Soviet Suprême, Made in China, qui sortira à l'automne 2024. On écoute donc le duo Sylvester Stallone et John Lennon, Soviet Suprême sur Radio Albiges.
Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dit le qui que quoi comment? Qui déclare, qui pipote et puis qui ment? Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dirige les dirigeants? Et c'est qui commande le tout-puissant? Comment savoir qui dit vrai et qui ment? Qui fait quoi? Qui vend quoi? Pour qui? Pour quand? Qui persifle dans nos têtes? Qui capture nos écrans? Qui se cache dans nos crânes et nos tympans? Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dit le qui que quoi comment? Qui déclare, qui pipote et puis qui ment? Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dirige les dirigeants? Et c'est qui commande le tout-puissant?
Qui recrute, qui nous scrute et nous raquette? Qui dit chut, qui planifie la planète? Qui pilote tous nos clics? Qui a conquis le cockpit? Qui calcule et qui contrôle l'algorithme?
Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dit le qui que quoi comment? Qui déclare, qui pipote et puis qui ment? Mais c'est qui complote?
C'est qui
complote? Mais c'est qui complote?
C'est qui
complote?
Le grand bal des théories est ouvert. Des ovnis, des soucoupes et des tout verts. Il est pas franc le maçon, il est Judas le Saint-Père. Il est voilé le maître de l'univers. Quand s'alignent les planètes, c'est pas net. Des chercheurs d'étymologie suspectes. Des fouineurs d'informations ont fait des révélations qu'il est préférable de garder secrètes.
Et c'est qui complote?
C'est qui
complote?
C'est
qui complote? Mais c'est qui complote? Mais c'est qui complote?
C'est qui
complote? Mais c'est qui complote?
C'est
qui complote? Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dit le qui que quoi comment? Qui déclare, qui pipote et puis qui ment?
Voilà, Qui complote sur Radio Albiges, un titre extrait du prochain album de Soviet Suprême qui sortira à l'automne 2024. Paro, tu as reconnu le petit clin d'œil, un chanteur assez connu?
Eh oui, complètement, le petit clin d'œil.
Ah, Richard Gottener.
Tout à fait.
La chanson le Yuki. Non, tu ne l'avais pas du tout, faut le dire, ça quand même. Allez, Soviet Suprême sera à voir du côté du festival Les Arséniques le 28 juin prochain, du côté de l'Isle-sur-Tarn. Et on va continuer, Pao, à parler de festival avec nos amis Debout-les-Yeux.
Mais qui est en concert à Debout-les-Yeux? Tu les as peut-être reconnus, Arnaud. Bon, allez, on va éviter de se faire des petites blagues comme ça ou des petits pièges en live. Allez, le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5 mai. Mais La Crousier fait son festival sur 3 jours. L'association Debout les Yeux, gérée par Léna et Pierre, des artisans artisanes, organise la 4e édition de ce beau festival avec comme particularité cette année un festival gratuit et qui se veut convivial avec des temps de partage de repas. Un festival qui mélange la convivialité, l'échange, la musique et l'artisanat. Léna nous présente la programmation de ce beau festival à Tom Crousier. Le festival à Tom Crousier, c'est dans quelques jours. Si je rappelle les dates, le vendredi 3 mai, le samedi 4 mai et le dimanche 5 mai. Ça a un peu changé cette année, cette 4e édition. On retrouve tout un côté concert, on retrouve aussi une mise en valeur et en lumière des différents métiers de l'artisanat. Mais il y a aussi tout un côté restauration que vous avez souhaité développer cette année. Pourquoi on développe un peu plus ce côté restauration ?
Eh bien, parce que cette année, notre festival sera entièrement gratuit. C'est la première année où on a réussi. Enfin, en 2023, on a beaucoup réfléchi à comment rendre ce festival gratuit. On a fait plusieurs essais sur des événements mensuels. Et on en est arrivé à cette fameuse soirée où on a une première partie restauration et une deuxième partie concert, ce qui nous permet de faire un équilibre financier sur les soirées.
Et d'apprécier un moment de culture gratuit, c'est toujours des belles valeurs à mettre à l'honneur. Le vendredi 3 mai, donc justement à 20h, repas côte de bœuf à partager. Tiens donc.
Du coup, on travaille avec la boucherie Ressac qui est à Carmo. On leur prend du coup une trentaine de côtes de bœuf et on propose de partager un plateau côte de bœuf entre 3 et 4 personnes.
Ça fera du coup des grandes tablées où les gens vont pouvoir se retrouver, partager un repas tous ensemble. C'est vraiment un moment repas puisque c'est à 20h et à 22h30, le premier concert commence avec le concert de Coco Night. C'est qui les Coco Night ?
Alors le concert sera plutôt à 21h30 qu'à 22h30. On a décidé d'avancer un peu parce que sinon ça fait vraiment très tard. Et les Coco Night, du coup, c'est un groupe toulousain qui propose des reprises de morceaux de musique groove, funk, pop. De morceaux que tout le monde connaît et sur lesquels on peut danser très facilement. Combat news, talking this and that. Yeah, give me all you got, don't hold it back. Yeah, first probably warn you I'll be just fine. Yeah, no offense to you, don't wish it out. It's why, because I'm hobby got low. Got long if you feel like happiness is a trouble.
Eh bien, ça promet une jolie soirée pour le vendredi 3 mai, un repas côte de bœuf à partager, suivi d'un concert Coco Night Groove Funk à 21h30. Le samedi 4 mai, dans la journée, qu'est-ce que vous allez proposer ?
Eh bien, toute la journée, il y a des initiations et démonstrations des métiers artisanaux. Cette année, c'est pareil, on a un peu fait grossir ce côté-là parce que ça nous est très important. Du coup, on va avoir entre 12 et 15 artisans, on attend encore certaines validations. Et on aura aussi la participation de la Chambre des métiers le samedi, qui sera là pour présenter un peu les formations possibles ensuite dans les métiers de l'artisanat.
Mettre en valeur les métiers de l'artisanat, c'est important parce que c'est des métiers qui se perdent, c'est ça ?
Eh bien, nous, on est artisans, ouais, et on se rend bien compte que c'est de plus en plus difficile de trouver des artisans qualifiés. Nous, on a de plus en plus de demandes sur nos différents secteurs, du bois, du fer, enfin, moi, en cordonnerie, c'est pareil, il y en a de moins en moins. J'imagine que dans les autres métiers, c'est un peu la même chose. Et quand on en parle avec nos collègues, on se rend compte qu'on est tous un peu dans la même situation. Donc, il nous paraît important d'essayer de créer des vocations et voilà, de montrer nos métiers et de dédiaboliser aussi ces métiers de l'artisanat pour les rendre accessibles.
Comment tu expliques qu'il y ait de moins en moins d'artisans, d'artisanes ?
Je dirais que c'est un peu dû aux formations et aux cursus qu'on nous donne à l'école. On est facilement guidé vers des formations plus scientifiques ou littéraires et un peu moins vers des formations manuelles. Ça a été longtemps dénigré un peu. Et pourtant, il faut bien avoir une bonne tête pour travailler de ses mains.
On est bien d'accord. Et la Chambre des métiers, tu nous rappelles l'importance que ça a justement dans le monde de l'artisanat ?
Bah, la Chambre des métiers, c'est elle qui regroupe un peu tous les artisans, qui défend nos droits, qui... c'est avec elle qu'on va aussi faire toutes nos démarches administratives. Elle a aussi tout un pôle de formation. Et voilà, elle est aussi auprès du public pour de transmettre cette envie de travailler la matière.
Donc un samedi après-midi de découverte, le 4 mai. Et puis à 19h, on retrouve nos Jackies, le Jackie Animation. C'est qui les Jackies ?
Les Jackies, ça part d'une rencontre avec Nicolas qui fabrique des gens en bois au pont de Tanus, donc pas très loin de chez nous. Et cette volonté d'animer un peu les interplateaux et les temps creux des événements en soirée par des animations et des jeux, disons un peu bêtes parfois, mais très rigolos en somme.
Et puis il y aura un moment de restauration, j'imagine, le samedi également. Qu'est-ce que vous allez proposer ?
Alors le samedi, du coup, on recommence pas avec les côtes de bœuf, mais on passera au magret de canard, parce que c'est pareil. C'est toujours avec la boucherie Ressac qu'on essaye de proposer des plats qu'on peut pas se faire soi-même tout seul, ou qu'on se fait rarement tout seul, et voilà, qui sont un peu festifs.
Très bien. Et à 21h, concert de Solak Balik, musique méditerranéenne. Tu nous en dis plus ?
Oui, du coup, ce Lac Balic, c'est un groupe toulousain. Ils sont 6 sur scène. Et c'était le groupe Swing Vandals avant. Ils étaient venus jouer à la Crousier en 2019, il me semble. C'est vraiment, ouais, c'est de la musique méditerranéenne, une musique balkane un peu chantée en français, mais aussi en grec.
Et à 22h30, le concert de Bilbao Kung Fu, du rock français. C'est qui les Bilbao Kung Fu ?
Les Bilbao Kung Fu, c'est un groupe de Bordeaux qui propose effectivement du pop-rock français. Ça va un peu ressembler à la musique de téléphone, voilà.
Léna, bah rendez-vous au mois de mai pour le festival.
Oui.
Allez, à bientôt.
À bientôt.
Merci. Allez, le festival Atome Crousier se déroule donc du 3, 4 et 5 mai à La Crousier, près de Tanus. Pour plus d'informations, rendez-vous au deboutlesyeux@gmail.com. Pour les repas partagés, une réservation est conseillée au 06 69 18 67 86. Vous pouvez vous rendre à La Crousier soit en voiture en pensant à covoiturer ou en train jusqu'à la gare de Tanus. Sur place, un espace camping et parking camion est gratuit et conseillé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission dans notre créneau Tôt ou Tarn ce mardi à midi et 18h et ce vendredi à 14h.
Allez, connaissez-vous les Canuts de la Terre ? Moi, non, pas du tout. Alors, Jérôme Gouste va nous en parler cette semaine dans sa chronique de Désenfumage. Une chronique à retrouver chaque lundi sur nos ondes via la rubrique Comme un lundi ou sinon en passant par notre site internet radioalbiges.com.
La chronique du désenfumage sur Erdotan Gaillac et Radio Albiges. Les canuts de la terre. On peut ainsi qualifier la majorité des agriculteurs actuels. Mais pourquoi les canuts ? Petit rappel historique. Les canuts étaient les travailleurs de la soie, principalement installés à Lyon au XIXe siècle. Les maîtres tisserands étaient propriétaires de leurs outils de production, mais c'était en fait des travailleurs à façon pour des négociants banquiers, les soyeux, qui leur procuraient la matière première, leur commandaient les produits et fixaient les prix. L'effondrement des cours entraîna la révolte des canuts. N'est-ce pas, à l'heure actuelle, la situation de la plupart des agriculteurs ? Mais revenons sur l'évolution qui a vu passer la classe paysanne d'une économie de subsistance à une économie marchande. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire et nourrir le pays. Durant la guerre, les USA avaient développé un énorme complexe militaro-industriel. Le plan Marshall en 1947, sous couvert d'aider à la reconstruction, constituait le débouché de ses capacités industrielles. La révolution verte a présenté plusieurs dimensions, remembrement, mécanisation, développement des engrais et produits phytosanitaires. En moins d'une génération, la classe paysanne va vivre une révolution culturelle. Alors que la culture paysanne considérait l'endettement comme un péché mortel, l'endettement allait devenir non seulement la règle, mais le signe du progrès. Alors que la pratique agricole reposait sur des savoirs ancestraux liés à la terre, toutes ces bases allaient disparaître. Il ne s'agissait plus de cultiver la terre ou d'élever des animaux, mais de les exploiter. Le sol devenait un simple support minéral, le lien au sol disparaissait, les élevages hors sol prenaient le dessus dans lesquels les animaux étaient nourris d'ensilage, d'aliments industriels des quatre coins du monde. Alors que le paysan raisonnait sur le temps d'une génération, l'exploitant agricole allait peu à peu se retrouver dans une vision à court terme. Tout cela avec comme objectif de fournir une alimentation à bas prix pour permettre à la population d'accéder à d'autres consommations. Pari réussi, puisque la part de l'alimentation dans le budget des ménages allait passer de 42% en 1950 à 35% en 1960 et à 20% en 2014. Ce fut aussi la création de l'Europe agricole. Les lois de 1962 et 1963 allaient faire entrer l'agriculture française dans le productivisme et l'exportation. La paysannerie allait disparaître. Aide et prix garantis allaient faire le tri et continuer à faire disparaître les fermes non rentables. La population active agricole était de 3,9 millions en 62. En 82, il n'y avait plus que 1,6 million d'agriculteurs. 490 000 en 2010, 389 000 en 2020. 75% de disparition en 40 ans. Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture de 1961 à 1966 et père de l'Europe agricole, allait exprimer ses regrets à la fin de sa vie. Dans son livre « Un vieil homme et la terre » en 2004, « J'ai favorisé le développement d'une agriculture productiviste. Ce fut la plus grosse bêtise de ma vie. » Il propose dans ce livre deux principes. Que chaque pays produise sa propre nourriture et que chaque pays rémunère ses producteurs de nourriture de façon à ce qu'ils aient une vie décente. On en est loin. Reprenons cette description de la production faite par Albert Jacquard dans « J'accuse l'économie triomphante ». Les éléments nécessaires pour produire du blé étaient autrefois la terre, le soleil et la sueur des bêtes et des hommes. Aujourd'hui, la terre ne compte guère, les animaux ont disparu, les hommes continuent à se fatiguer, différemment mais au moins autant qu'avant, et le reste des ingrédients est fourni par l'industrie. Certes, le rendement à l'hectare s'accroît, mais ce terme n'a plus le même sens. Il faudrait comparer la récolte non à la surface qui lui est consacrée, mais à l'ensemble des produits de toute nature qu'il a fallu consommer pour l'obtenir. Le bilan est alors beaucoup moins glorieux. Sans oublier le coût des pollutions induites qui détruisent peu à peu l'écosystème, le coût du déplacement des populations qui avaient un toit au village et pour lesquelles il faut construire des bars et des tours dans les grands ensembles. Dès la fin des années 60, ce modèle agricole était critiqué. D'une part, pour son caractère destructeur de la terre avec l'apparition des mouvements d'agriculture biologique. Nature et progrès étaient créés en 1964. D'autre part, des paysans réalisaient qu'ils perdaient le contrôle de leur travail. Parmi eux, Bernard Lambert publiait en 1970 « Les paysans dans la lutte des classes », qui constate la mainmise du capitalisme sur l'agriculture, dénonce la prolétarisation des paysans. Pour lui, liés par contrat à des groupes capitalistes, les paysans perdent toute indépendance et deviennent des salariés à domicile, des canuts. Né en 1931, formé par la jeunesse agricole chrétienne, Bernard Lambert reprend la ferme en 1951 et se lance dans le productivisme et avec la production de poulets. Il devient secrétaire général de la FDSEA de la Loire-Atlantique en 1965, mais à partir de là, il diverge. Il crée le journal Vent d'Ouest, organe du mouvement des paysans travailleurs qui aboutira en 1986 à la création de la Confédération paysanne par fusion des organisations agricoles qui combattent le productivisme. Personnellement, c'est cette lecture et la découverte de l'écologie naissante qui m'ont conduit à l'agriculture biologique et à Nature et Progrès. C'est à partir des années 70 que consumérisme et mondialisation allaient devenir dominants. Fini les petits commerces, l'épicerie de quartier, place au super et bientôt hypermarché. Les producteurs pesaient de moins en moins face à la grande distribution et la consommation a changé. Moins de produits bruts, de plus en plus de produits transformés par l'industrie agroalimentaire. Il n'y a pas que les producteurs qui ont perdu le lien au sol. Côté mondialisation, l'émergence des grands groupes agroalimentaires privés ou coopératifs allait donner une dimension nouvelle à l'économie de marché et la faire accéder à une dimension planétaire. Les accords de libre-échange allaient aggraver la prédominance d'une agriculture bas de gamme. Ces traités ont pour but d'augmenter les débouchés des productions d'un pays en diminuant les droits de douane. Donnant. Sauf que la plupart du temps, ils constituent une concurrence déloyale pour nos productions agricoles. En favorisant l'entrée de productions de coûts très inférieurs ne respectant pas les normes européennes, tant sociales qu'environnementales. Fin 2023, le Parlement européen approuve un traité avec la Nouvelle-Zélande. Les secteurs de l'automobile et du machinisme agricole ou industriel sont gagnants. Par contre, les productions agricoles vont en faire les frais, en particulier l'élevage et le mouton et les produits laitiers. Ces accords ont aussi un effet désastreux sur le plan écologique. Ils augmentent les transports intercontinentaux et donc la production de gaz à effet de serre et indirectement la déforestation. Prenons l'exemple d'un de ces grands groupes, le groupe Avril. Avec 73 sites industriels dans le monde, il est présent dans les l'huile, le sueur, Puget, l'alimentation Sanders pour les animaux d'élevage, le commerce international des céréales, les agrocarburants ou encore la chimie des huiles et protéines végétales. Chiffre d'affaires 2022, 9 milliards d'euros. Résultat net, 218 millions d'euros, soit 45% de plus qu'en 2021. Et pourquoi parler de ce groupe ? Ben, parce que son PDG n'est autre que le président de la FNSEA, exploitant la ferme familiale de 700 hectares. Certes, un profil modèle pour la défense des producteurs. Piégés dans cette économie mondialisée, les exploitants agricoles voient les revenus de la plupart d'entre eux laminés, alors que leur outil de travail valent des millions. Et depuis ces décennies, l'agriculture est sous perfusion. Les aides de l'État la maintenant en vie, comme le RSA permet aux pauvres de ne pas sombrer. Les manifestations agricoles sont justifiées, mais malheureusement, ils restent accrochés à un modèle de production en faillite. Les résultats dont se vante la SNSEA en sont la preuve. Suspension du plan de limitation des pesticides, le plan Ecophyto, relance de l'irrigation, des bassines, mise sous tutelle des organismes de contrôle, réduction des recours contre les projets. Donc on va poursuivre dans la dégradation de la santé des paysans et des paysannes, de nos sols et de notre environnement. Et on va continuer à engraisser les multinationales des pesticides et la grande distribution. Tout cela constitue un suicide collectif de l'agriculture par sédation productiviste. Tout en soutenant la colère agricole, la Confédération paysanne souligne l'ambiguïté des revendications. L'agriculture française tourne en rond depuis des décennies, derrière la sacro-sainte compétitivité chère à la grosse business et au marché mondialisé. Résultat, un plan de licenciement massif dramatique qui tue nos campagnes. Elle réclame la sortie du libre-échange et du productivisme destructeur et une réelle politique d'installation de paysannes et paysans pour arrêter l'hémorragie. Sortir du modèle productiviste et aller vers une agroécologie paysanne, bien sûr, mais impossible tant que la production sera sous la dépendance du consumérisme. On le voit bien avec la dérive productiviste d'une certaine agriculture biologique officielle inscrite dans ce modèle économique. Le consumérisme a besoin d'une production mondialisée, de cette fausse diversité des aliments à travers des multitudes d'étiquettes pour un même type de produit industrialisé. Le consumérisme a besoin de la mondialisation pour répondre aux prétendus besoins. La meilleure façon d'exprimer notre soutien à l'agroécologie paysanne est la déconsommation. Revenir aux produits bruts pour une cuisine simple, aux productions locales, revenir aux céréales et aux protéines végétales, sans abandonner les produits des animaux, mais en en consommant peu mais de la vraie viande, pour que les agriculteurs cessent d'être les canuts de la terre. Bon appétit et bon courage. C'était la chronique du désenfumage sur Air d'Otan Gaillac et Radio Albigès.
Allez, merci à Jérôme Gouste pour sa chronique. Vous pourrez retrouver l'ensemble des chroniques en podcast en passant par notre site internet radioalbigès.com. Et vous pourrez retrouver Jérôme Gouste et ses chroniques du côté de la grande foire Biocibel le 19 et 20 mai prochain du côté de Groyer. Et par où on enchaîne avec l'actualité culturelle en Occitanie.
Et oui, 180 secondes. Aujourd'hui, l'actualité culturelle en Occitanie nous emmène du côté de Toulouse pour découvrir le nid des éléphantos, un chapiteau de cirque installé à La Trappe en Haute-Garonne.
180 secondes, l'info culturelle en Occitanie.
Nous sommes en Haute-Garonne, au sud de Toulouse, sur des coteaux qui font face aux majestueuses Pyrénées, à La Trappe, exactement. Et là, se trouve un lieu surprenant, totalement improbable, planté au milieu de nulle part un chapiteau, un véritable chapiteau de cirque entouré de roulottes. Il s'agit du nid des éléphantos. C'est là que je rencontre Viola, qui gère ce lieu avec Cristobal. Bonjour Viola, c'est quoi ce chapiteau ?
Eh ben, ce chapiteau, c'est un petit bijou familial parce que moi, je suis née sous ce chapiteau. Mes parents, ils sont clowns. Ils sont clowns en Italie. Ce chapiteau a été monté à Venise. Pour moi, c'est vraiment ma première maison. C'est un lieu qui rappelle vraiment le spectacle à l'ancienne. C'est un petit cocon. Ça crée une proximité avec l'artiste.
Et les éléphantos, c'est quoi ?
Alors, les éléphantos sont une compagnie de cirque et théâtre. Et nous avons décidé de travailler sur l'accueil avec le nid des éléphantos, avec des soirées spectacles de cirque et de concerts et des cours, des ateliers tout au long de l'année et des spectacles qu'on fait à l'extérieur, du coup dans les écoles et dans les mairies.
Vous venez d'être reconnu pour vos actions sur l'éducation artistique et culturelle auprès des écoles environnantes. Quel est votre projet ?
On a créé un projet qui s'appelle Respirer ensemble. Il amène les enfants de CM2 et les enfants de 6e de se rencontrer pour créer un meilleur passage plus joyeux entre l'école et les collèges, permettant aux enfants, par le biais du cirque et du théâtre, et de la parole et du travail autour de l'émotion, d'être plus épanouie à ce moment-là, de pouvoir mieux le communiquer avec les parents, sous ce moment qui peut être parfois difficile.
Je crois que vous incluez aussi les parents et les enseignants.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'inviter les enfants à venir ici tout le long de l'année, par petits groupes, se mélanger, créer un petit spectacle et mieux se comprendre à travers des émotions avec du théâtre et du cirque. Après, on a des journées famille, c'est-à-dire qu'il y aura toute la famille qui sera conviée à venir au Nid des Éléphantaux, où on va pouvoir échanger vraiment tous ensemble autour d'un goûter. Et après, il y aura des journées sur le travail émotionnel et corporel avec les enseignants. On va les accompagner sur un travail corps-émotion qui permet à la personne de mieux se connaître, mieux gérer ses émotions, pour mieux saisir aussi l'enfant, avoir un curseur là où il faut sur certaines émotions qui peuvent parfois nous échapper.
Ce numéro de 180 secondes a été réalisé par Radio Galaxie pour l'Assemblée régionale des radios associatives dans le cadre d'un partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Elle est toujours branchée sur Radio Albigès pour l'hebdo d'info comme un lundi. Et on continue et on termine, Pao, avec quelques brèves et de la musique.
Oui, quelques brèves. Cette semaine, dans votre créneau littérature, retrouvez la lecture de Carnet de voyage dans le temps. Je l'ai vécu, je te le raconte. Chapitre 2, les héroïnes du quotidien. Odette, Renée, Pierrette, Marceline, Jeannette et Cathy reviennent sur les souvenirs de femmes, d'enfance. Et elles nous livrent des bouts de vie qui ont constitué leurs histoires de femmes à chacune. Rendez-vous donc ce mercredi à 14h et ce samedi à 16h.
Toujours sur nos ondes et cette semaine, retrouvez les chroniques amnestiennes avec le groupe Amnesty International Albi et son émission sur les droits humains dans le monde, de l'actualité internationale avec le conflit Israël-Palestine, mais aussi l'actualité au Brésil, au Soudan, actualité locale avec la lutte contre l'A69 et la chasse aux écureuils. Une émission à retrouver ce lundi à 14h, mercredi à 8h et samedi à 20h et prochainement en podcast en passant par notre site Radio Albigès.com.
Cette semaine, toujours retrouvez dans votre créneau conférence un retour sur la soirée d'ouverture du festival Les seconds rôles au premier plan qui a eu lieu à Carmo du 1er au 3 mars, organisé par l'association Clap Action et Clap Ciné Carmo. Une soirée qui a mis à l'honneur les acteurs et actrices dits de second rôle, mais artistiquement de premier plan. Vous pouvez y retrouver les célèbres acteurs, actrices comme Annie Gregorio et vous pourrez retrouver aussi l'interview de Dominique Pinon, ainsi que du réalisateur Manuel Sanchez. Rendez-vous donc ce mardi à 22h et ce dimanche à 20h.
Allez, on en profite aussi pour vous rappeler que Radio Albigès est une association libre et indépendante. Liberté et indépendance dans sa ligne éditoriale et dans les sujets abordés. Mais Radio Albigès a besoin de votre soutien, alors n'hésitez pas à nous soutenir financièrement via une adhésion en passant par notre site radioalbigès.com.
Et allez, une petite info, ce samedi à 15h30 à la librairie Liberny, retrouvez une lecture Frandrastique où deux drag queens de talent et de renommée viennent réaliser une lecture aux enfants. Miss Brandy Snap et Miss Shana Banana réservent un bon moment de littérature enfantine et d'ouverture d'esprit. Radio Albigès sera présente pour ce moment littéraire et assurera un enregistrement afin de restituer au mieux ce moment de livre, de drag et de fantastique.
Allez, on vous rappelle que l'Université pour tous du Tarn vous invite à un événement inédit et exceptionnel, une conférence dansée, corps en mouvement dans le théâtre d'art à l'écoute de l'invisible. Rendez-vous ce mercredi 24 avril à partir de 18h à l'Université Champollion d'Albi. Julien Botella, professeur agrégé de lettres modernes, docteur en études théâtrales, vous proposera une intervention autour du corps musical qui sera accompagné et sublimé par des passages dansés créés pour cette occasion par l'asso Densité. Le corps sublime, le corps traversé, le corps fluide, le corps aérien. Voici les explorations chorégraphiques, corporelles et scéniques qui seront proposées pendant cette soirée. L'entrée est libre et gratuite pour cette conférence dansée proposée par l'Université pour tous ce mercredi 24 avril à l'Université Champollion d'Albi.
Et allez, on termine en musique avec le groupe Solak Balik, un groupe au son organique et acoustique qui mêle rythmique et groove moderne, endiablé des textes poétiques, écrits avec soin en français et aussi dans d'autres langues, où se mélangent et se rencontrent les cultures méditerranéennes. On écoute le titre Sea Line Woman de Solak Balik, un groupe à retrouver en concert au festival Atom Crozier le samedi 4 mai près de Tanus.
Merci Pao.
Merci Arnaud.
Et à lundi prochain si tout va bien.
À lundi prochain.
Ciao ciao.
Sea line woman, she drink coffee, she drink tea and then go home. Sea line woman, sea line woman, sea line woman. Sea line woman dressed in green. Wears your stockings with golden seams. Sea line woman, sea line woman, sea line woman. Sea line woman, dressed in red, her smile so sweet, she wake the dead. Sea line woman, sea line woman, sea line woman. Sea line woman, dressed in blue. Watch out there, she's coming for you. Sea line woman, sea line woman, sea line woman. Wiggle, wiggle, purr like a cat, dance all day and sing all night. Wiggle, wiggle, purr like a cat, dance all day and sing all night.